Bonjour et bienvenue à tous, je suis Raph et vous êtes en direct sur la chaîne Pronosoft pour un nouveau numéro de PronoLive, vous le savez, l'émission 100% dédiée au pronostic. Merci à vous, auditeurs, pour votre présence. De notre côté, l'équipe est au complet. Salut Chris, salut Nadine, comment ça va?
Salut Raph, ça va, merci.
Salut Raph, salut à tous, tout va bien, merci.
Super. Nadim, avant de démarrer, un petit mot sur le Lotto Foot 12 de folie qu'on a eu hier soir, qui n'a pas trouvé preneur pour la deuxième fois consécutive.
Oui, vous en avez parlé dans l'émission de mardi, qu'il y avait un Lotto Foot 12 doté d'un pactole de 300 000 euros qui était à gagner hier sur l'Europa League et la Conference League. Et puis, c'était une grille très compliquée avec beaucoup de surprises. Il n'y a pas eu de gagnant au premier rang et un seul à 11 qui empoche plus de 100 000 euros. Donc, bravo à lui. Il y avait vraiment beaucoup de surprises. J'ai regardé un peu pour toi, Raph, qui aime bien les signes verts, orange et rouge. Il n'y avait que deux signes verts. Donc, vraiment le minimum de signes verts. 6 matchs nuls. Donc, grille très compliquée. Même si l'OM s'est peut-être imposé, on va en reparler dans le débrief justement. Mais grille compliquée. Et puis, il devrait y avoir un report. Alors, d'après nous, d'après notre expérience chez Pronosoft, ce sera dans 2 semaines. A priori, un pactole de 400 000 euros, mais on n'en a pas encore vu de ces montants-là au Lotto Foot 12. Donc, on attend de le voir. Mais on pense qu'il y aura donc 400 000 euros dans 2 semaines pour les 8e de finale de l'Europa League et de la Conférence.
Merci pour tes précisions. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, on parle de jeux d'argent, on parle de l'autofoot, on parle de paris à cote, mais n'oubliez pas que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas démarrer l'émission tant qu'il n'y a pas un max de likes dans le live. S'il vous plaît, likez-nous, c'est super important. Allez, je présente bien évidemment, c'est un programme classique aujourd'hui. On fera le débrief des pronobooks proposés mardi par Chris et Nadim. Bien sûr, le prono du Lotto Foot 15 numéro 12 de ce dimanche, qui est doté d'une coquette somme d'1,5 million d'euros, ça fait rêver. On fera bien sûr les pronobooks, c'est-à-dire la sélection de Chris et de Nadim, les questions-réponses en fin d'émission, questions que vous pouvez d'ores et déjà, s'il vous plaît, poser dans les différents chats. Seb, que vous ne voyez pas à l'écran comme d'hab, nous qu'on voit, qu'on salue, qui est à la technique, nous fait une compile de tout ça en fin d'émission. Allez les gars, c'est parti, on reprend vos pronobooks de mardi et on commence avec Chris pour son débrief.
Ouais, donc déjà ce premier match Inter-Atlético Madrid, donc déjà avec Nadim on avait bien vu sur la victoire de l'Inter. Après moi j'étais parti sur des buteurs, j'ai une grosse frustration quand même sur Lautaro Martinez hein, qui a eu pas mal d'occasions et notamment une occasion en première mi-temps où Marcus Thuram lui met un bon ballon, je pense qu'il fait un mauvais contrôle. Et habituellement, ce garçon-là est capable de marquer. Donc voilà. Donc c'est frustrant sur Lautaro Martinez. Par contre, je suis content d'avoir passé mon pari but d'un remplaçant. D'ailleurs, Raph nous disait qu'il avait rarement vu ça, même jamais. Donc c'est bien de le mettre en lumière sur ce live. Et donc voilà, but d'un remplaçant, c'est Arnautović donc qui marque en seconde période et en plus qui donne la victoire à l'Inter. C'est vrai que quand on voit le banc de touche et la qualité du banc de touche de l'Inter, on peut miser sur un but de remplaçant. C'est coté à 2,20, donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà, 1 sur 2 pour moi du côté de l'Inter.
Ouais, Nadim, 1 sur 2, mais du positif.
Ouais, du positif. Et puis, j'ai vu une question passer sur les buteurs. Donc, je vais en profiter pour rappeler la règle pour mon petit Marcus Thuram que j'avais pris buteur. Il se blesse à la 43e minute. J'ai espéré longtemps qu'il sorte avant la mi-temps, mais le changement n'a eu lieu que pendant la mi-temps. Donc, le pari n'est pas remboursé. S'il avait été remplacé à la 43e minute, ça aurait été remboursé. C'est un peu dommage pour moi parce que, bon, c'est son remplaçant. Tant mieux pour toi, Chris, qui a marqué ensuite. Thuram s'était déjà procuré une ou deux occasions en première mi-temps. Mais vraiment, l'Atlético de Madrid a verrouillé la boutique un peu comme prévu. Et comme l'Inter faisait énormément de clean sheets, notamment à domicile, je vous en avais parlé, avec 8 clean sheets sur 9 réceptions, j'ai proposé la triple chance au niveau des scores exacts, 1-0, 2-0, 3-0. Et il y a bien eu 1-0, donc je suis assez satisfait de mon analyse. L'Atlético qui est vraiment venu pour verrouiller et espérer faire la différence au match aller. Voilà, dommage pour Thuram, mais c'est la règle du jeu.
Le deuxième match, c'était PSV Eindhoven face au Borussia Dortmund. Pareil, on garde toujours le même ordre. 1 sur 2, encore une fois pour vous deux, Chris.
Oui, encore 1 sur 2. Après, c'est pareil, hein, c'est une grosse frustration sur ce match parce que je pense que le PSV aurait dû marquer en première mi-temps. Ils auraient mérité d'ouvrir le score ou peut-être ou au pire d'égaliser. Donc, je pense que le PSV a un but partout à la mi-temps. Peut-être que la deuxième mi-temps est différente. Peut-être que le PSV aurait pu s'imposer. Donc, c'est une frustration là-dessus. Maintenant, voilà, content. Luc de Jong a marqué son penalty. Penalty contesté, mais voilà, c'est un penalty tout de même qui permet au PSV de, de faire un but partout. Après, je pense qu'on a vu quand même un PSV qui a craqué physiquement en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on parle souvent du championnat néerlandais qui n'est pas très très relevé, avec des formations, enfin des concurrents du PSV qui sont assez faibles, et on l'a vu sur la seconde période, le PSV a été en difficulté sur le plan physique, donc ça laisse inaugurer peut-être une victoire de Dortmund au retour.
Tout comme Chris, Nadim, tu passes un buteur sur ce match.
Ouais, je passe le buteur Daniel Malen, dont je vous avais parlé, qui était même un ex du PSV, donc il a pas célébré son but, mais tant mieux, c'était une cote à 3,55, ça permet de renflouer un peu les paris perdus ailleurs, puisque c'est une belle cote qui passe dès la première mi-temps. Et puis ensuite, ça n'a pas voulu entre nous deux, Chris, puisqu'il y a eu match nul, et c'était la seule possibilité qu'on faute tous les deux sur notre prono 1 et 2. Je pense que le match nul est équitable dans l'ensemble du match, mais c'est vrai que le pénalty est très, très, très généreux et ça aurait pu peut-être permettre au Borussia de s'imposer sans cette petite erreur d'arbitrage. Mais il y en a eu d'autres sur les pénaltys cette semaine, et des bien, bien pires, je dirais.
Le troisième match de LDC, c'était Porto. Arsenal, tant que ça arrive sur l'écran. Voilà, merci Seb. Là, par contre, ça s'est moins bien passé, les gars.
Ouais, là, 0 sur 2. Et j'ai été déçu de la prestation d'Arsenal à Porto. Après, voilà, je pense que le 0-0 était plutôt logique. Galliano marque un but magnifique là, en fin de match. Mais voilà, je pense que Arsenal méritait au moins ce point. Mais c'est vrai que j'ai été déçu de la prestation. Je m'attendais à plus d'occasions du côté des Gunners et à une formation qui se livre un peu plus. Donc, c'est vrai qu'Arsenal a toutes ses chances de passer avec ce score de 1-0, toutes ses chances de passer au retour avec un match à domicile. Mais voilà, 0 sur 2 de mon côté.
Ouais, même chose pour Nadim donc.
Ouais, même chose, même si je pensais quand même avoir un peu vu le match très très fermé avec mon nul mi-temps et le moins de 2,5 buts dans le match. Donc il y a bien eu un score très fermé, ça aurait pu finir en 0-0. J'ai voulu être un peu trop gourmand en combinant le nul mi-temps avec Arsenal et encore Arsenal et les moins de 2,5 buts. Mais voilà, ça arrive, ça passera pas toujours dans le bon sens.
Allez, le quatrième et dernier match de Ligue des Champions, c'était Naples face à Barcelone, et là encore une fois les gars, chou blanc.
Ouais, et pourtant moi je pense avoir été dans le vrai sur ce match hein. Le Barça a dominé Naples jusqu'à la 70e minute hein. Les Napolitains n'ont frappé que deux fois au but dans le match et deux fois pour un seul but. Donc voilà, je pense que le Barça aurait mérité de s'imposer, il méritait déjà de mener un peu plus largement avant cette égalisation napolitaine. Donc c'est une grosse déception. Voilà, le Barça a toutes ses chances bien sûr de passer au retour, mais c'est vrai que sur ce match-là, voilà, je m'attendais à mieux.
Bon, Nadim, Monsieur Robert Lewandowski est-il l'ombre de lui-même ces derniers temps?
Il a quand même marqué, mais j'ai été trop gourmand encore une fois pour prendre la cote à la mi-temps. Il marque un beau but en deuxième mi-temps qui se procure tout seul. Et donc Lewandowski, il est un peu en convalescence, je dirais. Il a été tellement critiqué qu'il se bouge un peu maintenant. Peut-être qu'il y a un problème un peu plus profond dans cette équipe, je ne sais pas, parce que normalement, ils ont les joueurs de qualité pour aller très loin, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Mais voilà, la mayonnaise n'a pas prise dans cette équipe. Et puis, les deux équipes ont bien marqué, mais Barça ne s'est pas imposé au final. Donc, les deux paris ici sont perdants.
Voilà pour cette Ligue des Champions. On passe à l'Europa League avec le premier match qui était donc Fribourg face à Lens. On y a cru pour les Lensois, Chris, qui ont mené 2-0, mais qui finalement ont sombré.
Ouais, c'est vrai qu'on y a cru et ça laisse quand même pas mal de regrets hein, quand on voit le match aller où je le disais sur le dernier live, j'avais trouvé une équipe lensoise très peu percutante et avec peut-être entre guillemets un peu moins d'envie que par rapport à des matchs face à Arsenal ou même face à Séville. Donc franchement, je pense qu'il y a une grosse frustration du côté de Lens qui aurait dû passer ce tour-là. Maintenant, voilà, pour mon pari, c'est compliqué hein, quand Griffo rentre à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est difficile de marquer un but. Donc voilà, pas de prono pour moi.
Ouais, pas de bon prono non plus pour Nadim avec la victoire de Fribourg. On peut rappeler, Nadim, parce qu'on a quand même souvent la question, que les prolongations ne comptent pas dans les paris sportifs, sauf spécification contraire du bookmaker.
Tout à fait. Donc, si vous avez pris Grégoric, c'est perdant pour le pari buteur. Et puis, il y a eu la question sur le chat. Tu disais que c'était cruel, Chris, par rapport à Griffo. Effectivement, aujourd'hui, le règlement est très cruel au niveau des buteurs. Il peut même rentrer dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps et ça sera compté comme perdu. On a essayé de faire bouger les choses avec l'association des parieurs, mais vraiment, on était face à des murs. L'ANJ, c'est un vrai mur. Ils ont voulu entendre parler de rien du tout. Donc, on a un peu baissé les bras parce qu'on pouvait se battre pendant 10 ans. Rien n'aurait bougé pendant 10 ans. Donc malheureusement, c'est comme ça, le pari est perdu. Désolé pour ceux qui t'ont suivi, Chris, pour toi et évidemment ceux qui ont parié dessus. Et de mon côté, bah, je voyais Fribourg peut-être un peu plus beau que ce qu'il n'était. Ils ont bien réagi quand même en deuxième mi-temps, ont réussi à marquer 3 buts, donc je voyais l'attaque qui tournait bien mieux. Mais ils ont fait 2 boulettes en première mi-temps. Enfin, ils ont été bien dominés jusqu'à la demi-heure de jeu et encaissé un but en fin de première mi-temps pour bien se réveiller ensuite. Je pense que le nul est équitable sur la partie, même s'il y a des supporters lensois qui ne seront pas d'accord. Et Fribourg s'est qualifié au final.
Ouais, Nadim, pour les anciens du forum, on peut parler d'une lensoise inversée sur ce coup-là.
Oui, presque. Tout à fait. Avec la prolongation, c'est une vraie lensoise, puisqu'une équipe qui est menée 0-2 et qui perd le match ensuite, on a baptisé ça une lensoise parce que Lens, vers les années 2006-2007, nous ont fait 2-3 retournements de situation après avoir été mené 0-2 et même 0-3 contre l'AS Saint-Etienne en 2007. Il y avait 0-3 et 3 buts partout à la fin. C'est le premier gain significatif du groupement Nous Team en 2007.
Ouais, et tout ce glossaire, toute cette terminologie, vous pouvez la retrouver sur www.pronosoft.com. Il y a tout un article complet qui vous parle un petit peu de toutes ces expressions qui ont maintenant, une quinzaine, voire plus. On enchaîne avec le deuxième match de l'Europa League, c'était Rennes face au Milan AC. Et là, carton plein les gars, bravo.
Ouais, donc plutôt, on s'attendait avec Nadim à un match un peu fou, à une équipe rennaise qui allait emballer cette rencontre. Et Rennes l'a fait, hein. Rennes a réalisé une belle prestation. C'est dommage que Rennes encaisse ce but-là en première mi-temps. Peut-être qu'à 1-0 à la mi-temps, les Rennais auraient peut-être pu croire à un exploit. Donc voilà, du côté de moi, mon pari de mon prono, ben ça passe, hein. Donc j'avais misé sur une double chance Martin Terrier et Raphaël Léao. Léao a inscrit le deuxième but des Milanais en seconde période. Donc voilà, c'est une cote à 2-10 qui passe, c'est plutôt sympa.
Ouais, Nadim, bien vu pour la victoire de Rennes. Moi, j'aurais pas mis un caillou dessus.
Ouais, la victoire de Rennes, tu m'avais justement questionné sur quoi je me basais, si c'était parce que le match était plié dès l'aller pour les Milanais, qu'ils allaient venir en tongs. Alors, ils sont venus en semi-tongs, ils ont quand même mis 2 buts, dont celui de Léao, mais ils avaient fait un peu tourner. On pouvait s'en douter, une équipe qui gagne 3-0 à l'aller, souvent, elle gère au retour, quitte à perdre d'un but. C'était un peu la physionomie attendue, même si je croyais en un potentiel exploit des Rennais, mais j'avais dit que leur défense, c'était vraiment leur péché mignon. Ils encaissent beaucoup trop de buts, que ce soit contre Lyon ou d'autres équipes en championnat. Bref, Rennes s'est imposé. Si vous l'aviez joué même jeudi, la cote est montée jusqu'à 3, donc une très très belle value à domicile. Et content que ça passe pour les Rennais et pour les Paris.
Ensuite, c'était Marseille face au Shakhtar Donetsk. Finalement, l'OM, qu'on croyait plutôt en crise, avec son nouvel entraîneur, sauve la mise des clubs français, Chris.
Ouais, c'est ça, seul rescapé en Europa League, donc cette équipe de Marseille. Ça a été difficile, hein, en première période pour les Marseillais, compliqué, mais voilà, Marseille avec ses attaquants de qualité ont réussi à trouver le chemin défilé. Donc de mon côté, ça passe avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang côté à 2-20, donc c'est plutôt sympa. Après, quand on regarde quand même le match, c'était assez logique que les Marseillais passent face à une équipe du Shakhtar qui est capable de coups sur un match d'accélération, etc., mais ça reste pas forcément une grande équipe européenne.
Ouais, Nadim, bien vu.
Ouais, t'étais aussi un peu étonné de la cote, cette fois pas du pari, mais de la cote plutôt basse de l'OM. Et ils ont pas failli à la règle. Tous les matchs au Vélodrome en Coupe d'Europe, c'est 3,5 buts, enfin, c'est plus de 4 buts. Donc là, il y a eu 3-1, ça s'est fait un peu attendre, comme au match aller où le 2-2 est arrivé tardivement. Donc ça passe pour le pari. Et puis l'OM, je dirais que le Shakhtar a tenu 60 minutes physiquement, mais ils sont un peu effondrés sur la fin. Sinon, techniquement, ils ont quand même des choses très très intéressantes avec des joueurs qui évoluent dans l'équipe nationale d'Ukraine, mais ils sont limités en ce moment du fait qu'ils n'ont pas de compétition, qu'ils sont également exilés depuis 2 ans. Donc c'est pas évident à vivre, je suppose, pour eux. Sinon, je pense que l'OM ne serait pas passé.
Allez, on termine ce débrief avec Toulouse face à Benfica. Toulouse qui sort la tête haute, Chris.
Ouais, ils sortent la tête haute. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration dans le camp des supporters toulousains, parce que Toulouse aurait mérité d'ouvrir la marque face à ces Portugais et de croire à un exploit, à un miracle. Donc c'est un des 0-0 frustrants. C'est vrai qu'ils sortent à la tête haute. Après, voilà, du côté de mon pari, de mon prono, pas de Di Maria, pas de João Mario, donc j'avais tenté une double chance. Donc un 0-0 quand même assez triste. Je pense que les Toulousains auraient mérité de s'imposer, peut-être un 0 ou 2-1, mais ils auraient mérité peut-être d'aller au moins en prolongation.
Ouais, mais c'était un pari difficile que tu avais tenté là.
Ouais, mais contrairement aux autres où l'idée était là pour certains paris, là j'étais complètement à côté de la plaque. Benfica n'a pas vu le jour durant le match. J'ai rarement vu ça. Je ne m'imaginais pas du tout une telle domination des Toulousains et autant d'occasions. Il y a 3 ou 4 fois où j'ai vu la balle dedans et elle rentrait pas au fond du filet. Donc vraiment manque de réussite côté Toulousain. On va peut-être parler de cette équipe dans les pronos Lotofoot.
Merci les gars pour ce débrief. On enchaîne tout de suite avec le prono, je le disais tout à l'heure, du Lotofoot 15 numéro 12 qui sera validé dimanche maxi pour 14h55. Il est surtout doté d'un pactole d'1,5 million d'euros. La composition de cette grille, c'est 5 matchs de Ligue 1, 1 match de Coupe de la Ligue anglaise, 3 de Serie A, 2 de Bundesliga, 2 de Liga et 1 de Copa Liga. On en dira un mot plus longuement tout à l'heure, Nadi, mais on va commencer tout de suite avec Chris. C'est le premier match, c'est le Paris Saint-Germain, leader du championnat, qui reçoit Rennes 7e, et sur ce match, vous êtes tous les deux d'accord, Chris.
Oui, si le PSG joue le jeu, le PSG devrait pouvoir s'imposer face à l'équipe rennaise. Alors, ce n'est pas une base très solide non plus. Rennes est capable d'aller faire un résultat au Parc des Princes. Mais voilà, le PSG doit engranger un maximum de points en Ligue 1 pour se rapprocher du titre le plus rapidement possible. Parce que voilà, les Parisiens risquent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est important. Il y a un déplacement périlleux la semaine prochaine à Monaco. Donc, le PSG doit absolument s'imposer face à ses Rennais. Les Parisiens restent quand même sur une grosse série. Là, c'est 18 matchs sans la moindre défaite, toute compétition confondue. Il y a un dernier succès à Nantes sur le score de 2-0, un succès quand même très important. Le secteur offensif est au complet là pour affronter les Rennais, donc je vois mal les Rennais réussir un exploit sur ce match-là. En plus, Rennes a joué ce jeudi en Europa League. Rennes a laissé beaucoup d'énergie sur ce match face aux Milanais parce qu'ils ont tenté le tout pour le tout. Donc voilà, je me dis que ça va être compliqué quand même pour Rennes. Victoire pour moi des Parisiens, même si c'est pas une grande base, je pense que le PSG devrait quand même pouvoir s'imposer. Les jambes vont être très lourdes du côté des Rennais et aussi la tête, parce que quand on se fait éliminer quand même de la Coupe d'Europe, c'est toujours compliqué juste après.
Ouais, Nadim, j'imagine ton argumentaire très proche.
Ouais, j'allais répéter ce que tu viens de dire. Évidemment, je partage les arguments de Chris. C'est les deux équipes les plus en forme du championnat, avec même un petit avantage pour les Rennais qui ont une série de 6 victoires en cours en Ligue 1, donc très très belle série, mais qui prendra, j'espère, fin pour mon pronostic dimanche au Parc des Princes. Donc les Bretons étaient à un moment en difficulté en championnat, puis là ils ont vraiment redécollé avec cette série. Ils peuvent même viser plus haut, donc une qualification en Coupe d'Europe, voire même en Ligue des Champions. Il faut qu'ils réitèrent ce type de performance et de longues séries de victoires, même si ça va peut-être s'interrompre donc dimanche, comme je viens de le dire. Ils vont avoir moins de récupération que les Parisiens, qui n'ont que cet objectif cette semaine, qui vont tenter de plier le championnat Ligue 1 le plus tôt possible pour être à fond en Ligue des Champions, où ils ont déjà pris une option pour la qualification pour les quarts de finale. Donc le PSG va rester concentré, encore plus au Parc des Princes, où il fait souvent sa loi, et victoire des Parisiens en base.
Ouais, sur ce premier match, c'était donc un premier prono commun pour vous deux, sachant qu'il y en aura 7, soit 50% de la grille, où vous êtes d'accord. Donc c'est quand même assez rare pour le signaler, notamment, on le verra par la suite, au milieu de grille, avec des triples qui sont placés quasiment au même endroit. Le deuxième match, c'est l'Olympique de Marseille, 9e au classement, qui reçoit Montpellier, 14e. Il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. Nadim joue un double 1N, Chris joue un double, enfin plutôt un kit ou double, même 1-2. Et il va nous dire pourquoi.
Ouais, c'est ça qui est tout double pour moi. On rappelle, Marseille a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Donc, les Marseillais sont qualifiés grâce à leur victoire, donc 3-1 face au Shakhtar. Voilà, je pense qu'il y aura quand même un peu de fatigue pour la réception de Montpellier. Il y aura de la pression parce que c'est les Marseillais quand même n'ont plus gagné depuis le 17 décembre 2023 dans le championnat de France de Ligue 1. C'était un succès devant Clermont. Donc, il y a quand même pas mal de pression. Au Vélodrome, c'est 3 nuls consécutifs là pour les Marseillais en Ligue 1, devant Strasbourg, Monaco et le FC Metz. Donc, grosse pression sur ce derby. C'est un derby, donc c'est un match toujours important du côté de Marseille, mais aussi du côté de Montpellier. Je vais noter aussi à Marseille que les Marseillais seront privés de Jonathan Clauss, à droite de la défense. Ça va être compliqué de le remplacer. Murillo est blessé. Les défenseurs Maïté et Gigot sont très lents, donc je pense ils peuvent être en difficulté face à la vitesse des attaquants de Montpellier. Et on le sait, Montpellier a un bloc bas. Montpellier joue en contre-attaque et avec des garçons comme Altamari, Accor Adams ou Arnaud Nordin qui sont sur une bonne dynamique et sur un bon match face à Metz et cette victoire 3-0. Je me dis que ça peut être compliqué pour Marseille de gérer ses contre-attaques. Donc voilà, je vois quand même les Marseillais s'imposer. Mais pour la spécu, je me dis que Montpellier peut-être aller chercher un coup et un résultat au Vélodrome.
Nadim, est-ce que cette initialico à jouer dans ton choix du double 1 et 9 ? Pas du tout.
Non, pas du tout. Plutôt le résultat du match aller qui était déjà un match nul. Et puis également l'OM qui est invaincu au Vélodrome depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Donc ça reste quand même une performance, même si les Olympiens semblent un peu malades. C'est surtout leur performance en déplacement qui sont décevantes. Là, ils viennent de se rassurer en s'imposant face au Shakhtar, même s'ils ont montré des signes de fébrilité en première mi-temps. Voilà, ça va jouer surtout au mental pour cette équipe. Il y a énormément de pression à l'OM, les supporters, le contexte, toujours beaucoup d'ambition et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Là, je pense que la venue de Gasset va leur faire du bien mentalement déjà. La victoire ajoutée à cela va leur permettre, je pense, également de mieux jouer. Alors, ils auront un peu moins de fraîcheur. C'est pour ça que je vois Montpellier capable de faire un nul. Mais avantage à l'OM en première fois. Et puis Montpellier, donc, qui va espérer même faire un match nul et qui a eu la bonne idée de s'imposer la semaine dernière 3-0 contre un concurrent direct pour le maintien. Parce que ça commence à chauffer pour les Montpelliérains. Ça revient très, très fort en bas. Et ça ne tient qu'à un fil que Montpellier ne soit pas barragiste actuellement. Donc, un bon point pour Montpellier si jamais il y avait match nul. Sinon, une victoire des Olympiens.
Le troisième match, on est toujours en Ligue 1, c'est Nice, troisième du classement, 39 points, qui reçoit Clermont, les protégés de Chris, qui eux sont 18e avec 16 points. On verra que Nadim joue un deuxième double consécutif 1N. Et Chris, lui, n'y croit plus en son équipe.
Ouais, il n'y croit plus du tout, là.
Hein. même si je rêve d'un exploit de Clermont sur la Côte d'Azur, ça me semble quand même compliqué. C'est pour ça que voilà, je mise quand même sur une victoire de l'OGC Nice. Alors, c'est vrai que là, les Aiglons ont perdu un peu de l'altitude là, ces derniers temps avec cette défaite dans le derby face à Monaco, avec cette défaite aussi à Lyon. Hein, mais bon, on rappelle quand même que Lyon est l'équipe en forme en ce moment dans le championnat de France de Ligue 1. On va juste rappeler quand même que les Niçois possèdent toujours la meilleure défense de la Ligue 1, qu'avant cet échec à domicile face à Monaco, les Niçois avaient aligné quand même pas mal de victoires et des succès quand même de prestige face à Marseille, face à Rennes, face à Lens, face à Reims. Donc le patron de la défense, Dante, revient aussi, il refait son retour dans cette équipe niçoise. Donc ça, c'est un point important. Mais surtout du côté de Clermont, c'est une formation qui sera privée de deux joueurs, hein, donc deux suspendus, Coffrier et Rachani. Coffrier, c'est le patron de la défense. Rachani, c'est le seul garçon qui est capable de percuter sur un côté et d'amener de la vitesse. Donc, ça peut être difficile pour Clermont. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, Clermont accroche quelques points dans sa course pour le maintien. Mais c'est plutôt à domicile ou alors c'est sur le terrain de concurrent direct pour le maintien. Donc, ça va être compliqué. Depuis le début du mois de décembre 2023, Clermont a toujours perdu chez les cadors de la Ligue 1. C'est des défaites à Brest, à Marseille, à Lille et à Rennes. Donc là, je pense que ça va être quand même difficile d'aller chercher un point à Nice. J'en rêve, mais ça va être compliqué. Et je passe la parole à Nadim, le supporter de Clermont.
Tu parlais de Dante, je ne sais jamais si c'est 53 ou 54 ans qu'il a. Quelle longévité ce joueur. En tout cas, moi, je suis admiratif face à ce genre de joueur qui, j'imagine, Chris, hein, toi qui as joué à haut niveau, doit avoir une hygiène de vie irréprochable.
C'est ce que j'allais te dire. Hein. Je pense que l'hygiène de vie de Dante, elle doit être fantastique. C'est un garçon qui, à mon avis, ne rate pas d'entraînement, qui est toujours présent, qui doit faire attention à tout ce qu'il fait après les matchs ou avant les matchs. Donc, quand on joue jusqu'à cet âge-là en Ligue 1, c'est que derrière, on est prudent sur pas mal de choses, donc c'est assez impressionnant. Et en plus, il est performant. Hein. Il joue, mais il est performant. On avait des garçons comme Hilton à Montpellier qui a joué aussi très âgé, mais sur les dernières années, c'était quand même difficile pour lui. Mais là, je trouve que Dante, en plus, c'est vraiment le rock de la défense de Nice et le patron, donc c'est assez impressionnant.
Pour avoir un footballeur brésilien normal, il suffit de mélanger Dante à Neymar et la normalité, la moyenne est là.
C'est ça. Donc toi, Nadim, tu laisses traîner le N sur ce match.
Ouais, je laisse traîner le N pour faire plaisir à Chris, mais surtout parce que Clermont va essayer de se battre quand même pour ce maintien, même si ça se complique de journée en journée avec les contre-performances. C'est seulement 5 points de prix sur 15 possibles. Mais de son côté, Nice, c'est guère mieux. C'est seulement 4 points de prix sur 15 possibles. Alors si Nice a perdu une place au classement, la conséquence pour Clermont, elle est un peu plus grave, je dirais, puisque le maintien est vraiment très, très compromis. Mais voilà, comme Nice marque très peu de buts, ça leur a coûté beaucoup de points dernièrement, notamment la défaite à Lyon, même s'ils méritaient peut-être un ou deux pénaltys. Ils marquent vraiment trop peu en attaque. C'est que la 14e attaque du championnat avec 22 buts marqués en 22 sorties. Donc, à peine un but de moyenne par match, même exactement un but de moyenne par match. C'est vraiment trop peu pour une équipe qui prétend jouer la Ligue des Champions. Et je pense que ça pourrait se terminer en 0-0 si les Niçois ne se projettent pas plus que ça. Et donc, c'est pour ça que je coche le nul. Mais la préférence ira forcément sur les Aiglons.
C'est noté. Quatrième match. Toulouse, 13e face à Lille, 4e. On verra que Nadim joue son premier triple. Et Chris lui base les dogs du LOSC.
Oui, après, je comprends le trip de Nadim. Hein, les Toulousains viennent de s'imposer à Monaco. Ils réussissent quand même une belle prestation devant Benfica. Mais c'est quand même un match qui s'est joué jeudi. Donc, voilà, Toulouse n'a pas forcément un effectif assez large pour pouvoir jouer tous les 2-3 jours. Je rappelle quand même que Toulouse reste sur une série là, de 7 matchs sans la moindre victoire au Stadium. Donc, c'est quand même très inquiétant du côté des Toulousains. C'est vrai que Toulouse arrive à accrocher quelques points à l'extérieur. Mais à domicile, quand il faut faire le jeu, c'est un peu plus compliqué. À domicile, ça reste aussi sur 3 défaites d'affilée, hein, devant Monaco, Lens et Nantes. Mais surtout une formation aussi de Toulouse qui a perdu ce jeudi normalement deux éléments importants, hein, Diarra et Dessler, qui sont sortis sur blessure. Alors si Diarra est forfait, Dessler est encore incertain, mais logiquement il ne devrait pas être dans le 11 de départ. On va rajouter aussi la suspension de Mawissa, donc un garçon aussi en défense qui est important du côté de Toulouse. Donc voilà pourquoi je mise sur une victoire des Lillois. Lille reste sur un succès devant le Havre 3-0. Lille, c'est la deuxième meilleure défense de la Ligue 1, donc ça va être très compliqué quand même de les bouger. Donc voilà, donc avantage pour moi aux Dogs qui se rapprochent du podium et qui n'en sont pas très loin.
100% de sérénité pour Nadim.
Ouais, 100% de sérénité à voir si je rajoute des prefs, mais aujourd'hui j'en ai pas vraiment parce que c'est vrai que le TFC, on n'y arrive pas au Stadium, mais à l'extérieur, c'est 3 victoires de rang, dont face à des formations comme Monaco ou encore Reims. Donc je pense que quand on arrive à gagner ainsi à l'extérieur, on peut le faire à domicile. On l'a vu hier, ils n'ont pas eu de mal à faire le jeu, ils ont juste pêché dans la finition. Mais le manque de réussite ne sera pas éternel, je pense. Et peut-être face à ces Lillois qui ont plus de mal justement en déplacement que dans leur stade Pierre-Mauroy, peut-être c'est l'occasion justement de prendre des points puisque Lille ne s'est pas imposé depuis 4 déplacements, seulement 2 nuls et 2 défaites donc en déplacement. Il y a un coup à faire pour les Toulousains et ils ont intérêt à faire un coup parce qu'il y a vraiment le maintien en jeu encore une fois dans ce match.
On va en terminer avec la Ligue 1, avec ce match numéro 5 entre le Havre Athletic Club et le Stade de Reims. On verra que Nadim voit probablement un match fermé puisqu'il jouera un N-fix et Chris joue un nouveau double 1-2.
Ouais, sur ce match, contrairement à Nadim, je vois un match quand même plutôt ouvert. Hein, c'est deux formations, c'est 12e qui reçoit le 8e, deux formations qui restent sur des résultats décevants, qui n'ont pas forcément grand-chose à perdre sur ce match, hein, parce qu'ils sont quand même, surtout le Havre, et quand même pour l'instant assez loin du maintien, même si la saison est encore très longue. Voilà, donc je me dis que ces deux équipes peuvent partir à l'abordage, aller chercher un résultat. On va juste rappeler quand même que cette saison, les Havrais ont été battus à domicile par les cadors de la Ligue 1, PSG, Rennes, Lille et Brest. Mais depuis le début de la fin de l'année 2023, ils ont quand même battu l'OGC Nice, hein, donc un candidat au podium en Ligue 1, et battu Lyon, hein, qui est l'équipe en forme actuellement. Donc c'est une équipe havraise qui est plutôt performante actuellement sur son terrain. Du côté de Reims, c'est une équipe qui doit aller chercher des points en Normandie pour stopper une période difficile. Hein. Les Rémois n'ont plus gagné là depuis 4 journées. Et ils ont surtout perdu devant deux formations qui luttent pour leur maintien, Toulouse et Lorient. Donc voilà, donc je me dis que sur ces deux équipes, il faut prendre des points. Donc voilà, ça va partir un peu dans tous les sens. On va juste rappeler qu'en 11 déplacements, cette saison, Reims, c'est 5 défaites, mais aussi des succès à Montpellier, à Lille, à Nantes et surtout à Monaco. Reims, c'était un habitué des matchs nuls. Et cette saison, c'est seulement 4 matchs nuls en 22 journées. Donc pourquoi pas un qui tout double.
Ouais, Nadim, tu vois quoi? Un bus devant les cages de chaque club?
J'espère, mais comme tu l'as dit, Chris, seulement 4 nuls pour cette équipe rémoise, et je pense que c'est quand même dans leur ADN de faire des matchs nuls et que ça va un peu rééquilibrer la stat. Après, le Havre n'a que 2 petits points d'avance sur la zone rouge, donc les Havrais ont intérêt à prendre des points. Peut-être que ils vont se contenter de ce point du match nul qui sera toujours mieux qu'une défaite parce qu'ils sont pas dans une bonne série actuellement. Même si après leur victoire contre Lyon du début d'année et les 2 belles performances en Coupe de France, on a cru qu'ils allaient facilement se sauver et se maintenir. Mais les choses ont changé entre-temps avec une série de contre-performances, tout comme les Rémois qui n'arrivent plus à viser plus haut. On a cru également qu'ils allaient pouvoir même titiller les places qualificatives en Ligue des Champions. Mais apparemment, il y a un plafond de verre qui s'est dressé au-dessus des têtes des Rémois. Donc aujourd'hui, ces deux équipes sont presque dans le ventre mou. Le match nul éviterait de rentrer dans une crise un peu plus profonde et c'est pour ça que je le coche.
J'en parlais en intro, on va assister à 4 matchs d'affilée avec un prono commun, et c'est assez rare pour le signaler, surtout sur de l'étranger. On va commencer avec ce match numéro 6, il s'agit en fait de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. C'est un choc entre Chelsea et Liverpool, et c'est la sérénité, Chris, puisque tu sors ton premier joker.
Ouais, je sors mon premier joker parce que, comme tu l'as dit, hein, c'est la finale de la League Cup à Wembley. Donc je pense que sur ce match, tout peut arriver. J'ai quand même sincèrement une petite préférence pour Chelsea, hein, qui doit absolument et qui va être concentré sur cette finale. C'est vraiment un objectif du côté de Chelsea. Si on va rappeler quand même que Chelsea est dans le ventre mou de la Première Ligue, assez loin des places européennes. Alors que du côté de Liverpool, peut-être que Liverpool va peut-être plus se concentrer sur le titre, et parce que Liverpool est actuellement premier à la première place de la Première Ligue. Alors Liverpool ne va pas lâcher cette finale, bien sûr, hein, mais voilà, je pense qu'il y aura peut-être plus de motivation du côté de Chelsea. Je vais rappeler aussi que Chelsea est plutôt sur une bonne dynamique. C'est une victoire en Coupe d'Angleterre à Aston Villa. C'est jamais évident d'aller gagner à Villa Park. Un succès à Crystal Palace et ce très bon nul à ramener de l'Etihad Stadium devant Manchester City. On va rappeler que les Citizens avaient égalisé quand même seulement à 7 minutes de la fin. Donc Chelsea est plutôt sur une bonne dynamique. Même si c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a eu une défaite à domicile devant Wolverhampton 4-2. Il y a beaucoup d'absents du côté de Chelsea avec Thiago Silva, Badiachil, Reece James, Cucurella ou encore Lavia. Mais il y a aussi des absents du côté de Liverpool, hein, Diogo Jota, Alisson, Curtis Jones, Alexander Arnold, Szoboszlai. Donc je me dis que ça peut être équilibré ce débat. Donc pas de risque pour moi. Maintenant, s'il y a une petite préf, c'est clairement du côté des Blues.
Triple, je le disais également pour Nadine.
Ouais, et moi, si je dois préférer un résultat, comme vous le savez, sur les finales, c'est toujours le match nul, la croix au centre. Donc, même si le 31 janvier, Chelsea s'était lourdement incliné à Anfield 4-1 face à Liverpool, je trouve que les Blues, ils ont pu se rassurer entre-temps avec deux belles victoires en déplacement à Aston Villa et contre Crystal Palace sur le score de 3-1. Et puis, ils ont fait jeu égal avec les Citizens à l'Etihad, 1-0. Donc, des Blues qui se sont rassurés, qui récupèrent peu à peu leurs joueurs blessés, même s'il en reste quelques-uns. Et puis les Reds, de leur côté, je dis toujours qu'ils sont moins bien en dehors de leur stade d'Anfield qu'à l'extérieur. Enfin, ils sont moins bien à l'extérieur qu'à Anfield. Donc là, c'est plutôt un match qui se joue à Londres, donc quand même de l'extérieur pour les Reds. Alors c'est vrai qu'Urban Klopp, il a fait un peu tourner lors du dernier match contre Luton Town. Nunez et Salah n'ont pas joué pour être préservés probablement pour cette finale. Mais malgré tout, je pense que les deux équipes ont des joueurs de très très grande qualité. Le match nul en première croix et après l'effet de jeu, des détails peuvent faire basculer le résultat d'un côté ou de l'autre, comme d'habitude.
On file en Serie A pour ce match de milieu de grille. C'est le numéro 7, c'est le Milan AC. C'est un choc troisième qui reçoit l'Atalanta Bergame quatrième. Bon, il y a 7 points d'écart au classement, mais encore une fois, tous les deux, c'est la prudence qui est de mise.
Ouais, prudence pour moi, hein. On rappelle Milan quand même a joué ce jeudi en Europa League, donc même si Milan a joué un match plutôt tranquille face à Rennes, il a fallu quand même éviter quand même la remontada des Rennais, mais je vais surtout rappeler que les Milanais restent sur deux défaites et un 4-2 en Serie A sur la pelouse de la Monza et donc ce 3-2 face à Rennes. Je trouve que c'est une équipe du Milan AC qui est plutôt solide sur ses termes et qui encaisse quand même pas mal de buts. Depuis le début de l'année 2024, c'est 2 buts à Udine, c'est 2 buts face à Bologne, c'est 2 buts face à Frosinone, c'est 2 buts à Monza. Donc c'est quand même une équipe qui est en difficulté dans ce secteur. Du côté de l'Atalanta, c'est une belle série là de 9 matchs sans la moindre défaite, avec quand même 24 buts marqués. Donc c'est une équipe qui est quand même performante dans le secteur offensif. Et je veux aussi rappeler que le 10 janvier 2024, en Coupe d'Italie, le Milan AC avait été battu à domicile par l'Atalanta Bergame 2-1. Donc pas de risque pour moi sur ce match. Je pense que l'Atalanta peut-être aller chercher au moins un point à Milan.
Ouais, pas de risque non plus, donc Nadim.
Ouais, pas de risque non plus. C'est un peu les mêmes arguments pour les deux équipes. Hein, Milan AC qui encaisse beaucoup de buts, 4 à Monza dernièrement. Et puis, même si c'était, ça ne leur compromettait pas leur qualification, quand même 3 buts encaissés à Rennes, c'est jamais rassurant pour des grosses cylindrées ainsi. Elles n'aiment pas perdre 2 matchs de suite, même si la qualif est déjà pliée dès le match aller. Et du côté de l'Atalanta, je trouve que ça tourne vraiment très très bien. Ça enchaîne les victoires avec ou sans Moukman qui était parti un mois à la CAN. Ça n'a rien changé. Et c'est de très belles victoires avec au moins 2 buts d'écart à chaque fois. Donc c'est pas ric-rac ou sur le fil, il y a toujours de la marge, donc beaucoup de contrôle dans cette équipe de Bergame. Ma première croix ici, ça va être sur l'Atalanta et je couvre le 1N parce que ça reste le Milan AC à San Siro.
Merci, toujours en Serie A, c'est le 13e Lecce qui reçoit le leader, à savoir l'Inter de Milan, qui lui dispose de 63 points et tous les deux vous basez l'Internazionale, Chris.
Ouais, c'est quand même difficile sur ce match d'aller chercher une surprise, hein. Lecce, c'est une seule victoire là sur les 9 dernières journées de Serie A. Dernièrement, le dauphin de l'Inter, donc la Juventus de Turin, s'est imposé à Lecce 3-0. Donc voilà, même si l'Inter a joué cette semaine en Ligue des Champions, l'Inter a les moyens de jouer sur tous les tableaux. Hein. On l'a vu, il y a un banc de touche quand même assez impressionnant du côté des Interistes. Là, actuellement, ils restent quand même sur une série de 9 victoires. Ils sont invaincus en Serie A depuis le 27 septembre 2023. Donc, c'est une équipe en pleine forme. Du côté de Lecce, ça va être compliqué quand même même si Thuram est blessé, il y a quand même des garçons comme Arnautovic ou encore Alexis Sanchez qui peuvent être associés à Lautaro Martinez. Donc, ça va être difficile pour Lecce de contrer ses attaquants. Donc, pour moi, une base Inter.
Ouais, Nadim, j'imagine à peu près les mêmes arguments.
Ouais, même si, comme tu l'as un peu dit, Lecce est une équipe difficile à manœuvrer, notamment chez elle, avec une seule défaite lors des 6 dernières réceptions. La défaite, c'était face à la Juve, qui est dans le même rang que des équipes comme l'Inter de Milan, et même l'Inter peut-être supérieure à cette Juve. Donc, avantage à l'Inter qui enchaîne, qui a certes perdu Thuram, comme tu l'as dit. Ils annoncent Arnautovic sur la Gazzetta pour dimanche, donc l'Inter qui carbure très très bien en ce moment, et victoire logique.
Toujours en Serie A, ce sera le dernier match qui concerne ce championnat, ça sera le 4e prono consécutif, je le disais tout à l'heure, et le 5e depuis le début de la grille, c'est Cagliari 19e qui accueille Naples 9e, et tous les deux vous basez le Napoli.
Ouais, et je vais surtout miser contre Cagliari, hein, donc cette équipe de Cagliari qui n'a gagné qu'une seule fois là sur les 10 dernières journées, qui reste sur 2 défaites à domicile devant le Torino et la Lazio de Rome. Alors, c'est vrai que Naples n'est pas forcément au mieux actuellement et au mieux cette saison, mais c'est quand même une équipe napolitaine, on l'a vu contre le Barça, qui est quand même capable d'avoir un secteur offensif de grande qualité, hein, aussi même à retrouver le chemin des filets, donc ça c'est intéressant. On a des garçons comme Varaskelia, comme Simeone, Raspadori, qui sont quand même des joueurs de grande qualité. Donc, il y a eu un changement d'entraîneur en début de semaine. Ce match face au Barça, où j'ai vu deux visages, hein, une équipe du Napoli dominée en première période et qui a quand même réagi en seconde. Donc, je me dis que si on a le deuxième visage du Napolitain, je pense que les Napolitains peuvent aller s'imposer en Sardaigne.
Oui, Nadim, Naples également.
Ouais, beaucoup de similitudes entre Naples et la ferveur populaire et l'OM. Ils sont un peu dans la même situation au classement. Et puis leur match de européen a été un peu identique avec un réveil en deuxième partie de rencontre. Donc le Napoli qui était métamorphosé après le but d'Osimhen, qui aurait même pu peut-être s'imposer puisqu'ils ont repris confiance. Donc le nouvel entraîneur Calzona peut ressouder cette équipe, et surtout il y a tous les cadres qui sont à sa disposition, dont Osimhen, donc qui a renoué en plus avec le chemin défilé, donc il va pouvoir composer comme il le souhaite, et Cagliari est vraiment en danger et en difficulté dans cette Serie A. En plus, il va manquer Chomorudov et Mancuso du côté de Cagliari, et Sulemana est incertain, donc en plus ils seront affaiblis, et donc base napolitaine.
On enchaîne avec deux matchs de Bundesliga. Le premier, c'est l'Eintracht de Francfort, 6e qui reçoit Wolfsburg, 12e. C'est une base du côté de Nadim pour Francfort. Et Chris, lui, joue son dernier triplé.
Ouais, pas de risque pour moi sur ce match-là. Déjà parce que Francfort a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. C'est toujours compliqué, on le sait, hein, de rejouer quelques jours après. En plus, c'est une défaite à domicile devant l'Union Saint-Gilloise et c'est une élimination en Europa League. Donc, il faut aussi s'en remettre dans les têtes. Ça peut être difficile. Sur ce triple-là, ma préf est clairement sur le match nul. Francfort en Bundesliga reste sur 2 matchs nuls devant Bochum et à Fribourg. Mais surtout Wolfsburg, hein, qui est une équipe qui s'accroche actuellement, qui a quand même concédé 5 nuls là sur les 6 dernières journées, avec notamment un très bon point pris devant Dortmund, donc pas de risque avec une petite préf quand même pour voilà, comme je disais, pour le match nul.
Francfort à domicile pour Nadim.
Ouais, je vais tenter, c'est un peu à l'instant, c'est peut-être un peu contre la dynamique actuelle de Francfort qui a été éliminé hier, mais à domicile, j'ai regardé, ils n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 10 rencontres de Bundesliga, et à l'extérieur, Wolfsburg n'a pris que 8 points en 11 déplacements, donc ça fait une moyenne de points assez faible en déplacement, moins d'un point par match, donc je vais miser sur la logique et une victoire à domicile.
Match numéro 11, c'est Dortmund, 4e au classement, qui reçoit Hoffenheim, 9e. C'est 41 points pour Dortmund contre 27 pour Hoffenheim. Et là, encore une fois, vous êtes de concert. Il s'agira de votre 6e prono commun. Tous les deux, vous basez le Borussia, Chris.
Ouais, petite base, hein, si on le sait, Dortmund ne réalise pas une grande saison, hein. Alors c'est vrai que Dortmund est 4e de la Bundesliga, mais Dortmund est quand même à 17 points du Bayer Leverkusen, du leader, donc déjà le titre s'est éloigné. On le sait, on voit une équipe de Dortmund qui est un petit peu à réaction, on l'a vu cette semaine face au PSV. Je pense que quand même que Dortmund devrait pouvoir s'imposer. Hein. Les marsupiaux sont quand même invaincus là depuis 8 journées, mais ils vont surtout affronter une équipe d'Offenheim qui est en difficulté. Offenheim n'a plus gagné depuis 8 journées, reste sur une défaite à domicile devant Lyon Berlin 1-0. À l'extérieur, c'est 4 défaites sur les 5 derniers déplacements, notamment à Fribourg, à Leipzig ou encore à Mönchengladbach. Et je veux aussi rajouter que Dortmund a remporté les 6 dernières confrontations. Donc, petit avantage aux marsupiaux.
Ouais, les jaunes et noirs également pour Nadim.
Ouais, parce que Offenheim, tu l'as plus ou moins dit, c'est un seul point de prix sur les 5 derniers déplacements en Bundesliga, donc c'est vraiment très très faible. La dynamique face à cette équipe lors des confrontations est en faveur des marsupiaux. Alors juste, Dortmund sera toujours privé du néo-champion d'Afrique, Sébastien Haller. Et côté Offenheim, il y a Nsoki, l'ancien Niçois, qui sera suspendu.
Merci. 12e match, c'est un match argentin, dit de Copa de la Liga. Alors avant de donner la parole à Chris, Nadim, est-ce que tu as quelques infos sur ce match?
Ouais, alors là, je remercie pas la programmation de la grille. Une fois n'est pas coutume. Alors il y avait, c'est vrai qu'il y a le championnat anglais qui joue peu de matchs ce week-end, mais ce match, c'est un peu un intrus et il a fallu beaucoup se documenter pour comprendre ce qu'il en était. Donc c'est même pas un match de championnat, c'est un match de Coupe de la Ligue argentine. C'est une coupe qui se déroule sur une période de 4 ou 5 mois. Donc en ce début d'année, il y a 28 équipes en deux poules de 14. Chaque équipe affronte l'autre équipe de sa poule une seule fois, donc il n'y a pas d'aller-retour. Donc il y a 13 matchs de poules et il y a une petite bizarrerie, c'est que lors de la 7e journée, et justement c'est la 7e journée de cette Coupe de la Ligue, les équipes des deux groupes s'affrontent. Alors chaque équipe rencontre leur rival, enfin son rival historique. Alors c'est un peu spécial. Je ne sais pas comment c'est défini, mais bon, River Plate, on sait que son rival historique, c'est Boca Juniors. Donc, ils vont se rencontrer. Et l'an dernier, ils s'étaient également déjà rencontrés, puisque même s'ils ne sont pas dans le même groupe, ce sont toujours des rivaux historiques. C'est comme si en France, il y avait une Coupe de la Ligue avec deux groupes et que le PSG affrontait toujours l'OM au milieu de la compétition et que Lyon affrontait toujours Saint-Etienne au milieu de la compétition. Bref, et les quatre premiers de ces deux zones de 14 équipes iront directement en quart de finale. Et là également, tout se déroulera sur terrain neutre à partir des quarts de finale jusque la finale. Et c'est Rosario Central qui est détenteur du titre.
D'accord. Mais sinon, le Doliprane, est-ce que c'est toi qui le fournis ou au niveau des…
Alors là, j'ai relu le règlement deux fois. Je vais le faire une troisième fois pour finaliser mon prono. Mais c'est une compétition à part. Alors déjà, les Argentins, ils ont des petites bizarreries puisque même leur championnat, la relégation… Elle ne se joue pas sur une seule saison, mais c'est une moyenne pondérée des trois dernières saisons. Donc, je pense qu'il y a un peu trop d'énarques ou de polytechniciens qui sont allés là-bas. C'est trop bizarre et pour le commun des mortels, c'est une usine à gaz.
Ouais, une belle équation. En tout cas, Chris lui base River Plate et il va tenter de nous dire pourquoi. Parce que t'aimes bien le nom, peut-être. T'aimes bien le nom.
Ouais, bon, c'est assez mythique hein, comme club. Hein. Voilà, River Plate. Je pense que ça parle à tous les footballeurs. Mais ouais, je vais aussi rappeler que voilà, Nadim disait que Rosario était le tenant du titre et Rosario la saison passée, donc enfin l'an passé, a éliminé en demi-finale à River Plate. Voilà, je vais rappeler aussi que River Plate est deuxième de son groupe A. Boca Juniors est septième. River Plate après 6 journées est invaincu, alors que Boca Juniors vient de s'incliner là sur le terrain de Lanús 2-1. C'est une équipe de Boca Juniors, je trouve, assez âgée et même peut-être un peu trop âgée. On parle souvent de retraite pour certains joueurs, mais là je pense qu'il y a certains joueurs qui sont peut-être à la retraite à Boca Juniors, hein, comme Edinson Cavani, comme un défenseur argentin. Je ne sais pas si vous vous rappelez Marcos Rojo aussi qui jouait sur le côté gauche, hein, si je me souviens bien. Donc il y a Sergio Romero aussi, le gardien de but argentin. Donc je pense que c'est une équipe avec pas mal de joueurs en pré-retraite. Donc petit avantage pour moi à River Plate. Je vais juste rappeler aussi que au mois d'octobre 2023, dans la légendaire enceinte de la Bombonera de Boca Juniors, River Plate s'était imposé 2-0 dans un match très chaud. Donc voilà, je me dis qu'à domicile, River Plate peut enchaîner.
Ce match m'a déjà donné mal au crâne. Moi, je mettrais un quadruple hein, sur ce match.
Au début, je me suis dit, je vais tripler ce match. Après, j'ai regardé un peu de plus près et quand même avantage à River Plate qui donc s'était imposé l'an dernier. Alors, ils avaient joué à la Bombonera. Ils s'étaient imposés 2-0. Donc, les avantages quand même. Ils sont mieux classés actuellement dans leur groupe, comme tu l'as dit, Chris. Ils sont deuxième. Donc, avantage à River Plate. Pour moi, et puis Boca Juniors également, club légendaire argentin avec Diego Armando Maradona qui a évolué là-bas, et la Pache Tevez plus récemment pour les plus jeunes.
Merci les gars. Je ne vais pas vous demander un résumé hein, du règlement de ce match, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. On va terminer avec deux matchs de Liga. Le premier, c'est le Betis-Séville 7e qui reçoit l'Athletic Bilbao 5e. Vous n'êtes pas d'accord sur ce match. Nadine nous dira pourquoi lui, il ne base pas, ou du moins il ne fait pas confiance à Bilbao, à la différence de Chris.
Ouais, clairement, je vais tenter une petite surprise sur ce match. Le Betis a joué ce jeudi en Coupe d'Europe, s'est fait éliminer par le Dynamo Zagreb. Donc, c'est déjà aussi un déplacement assez long pour du côté du Betis. Le Betis, c'est seulement 3 victoires là sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc, le Betis, c'est aussi là 2 matchs nuls assez inquiétants devant Retafe et Alaves, 2 équipes du ventre mou de la Liga. C'est une équipe qui est un petit peu plus en difficulté actuellement. Peut-être aussi à cause de l'absence de pas mal de joueurs. Donc, il y a énormément d'absents du côté du Betis. Il y a déjà 3 suspendus pour ce match-là, Marc Roca, Juan Miranda et Papastatopoulos. Donc, 3 joueurs quand même qui sont habituellement titulaires dans cette équipe. Il y a pas mal de blessés, le latéral gauche Abner qui n'est pas là, l'attaquant Pérez, son milieu de terrain Rodriguez et aussi surtout le meneur de jeu Isco, qui est pour moi voilà, l'âme de cette équipe au milieu du terrain, le garçon qui est capable de trouver les bonnes ouvertures, les bons espaces. Donc voilà, je pense que le Betis peut être en difficulté devant une équipe de l'Athletic Bilbao qui est en confiance. Les Basques là sont invaincus quand même depuis 6 matchs. Ils viennent quand même de faire chuter Gérone avec une belle victoire 3-2. Ils se sont imposés en Coupe du Roi sur la pelouse de l'Atlético Madrid 1-0. Donc pour moi, voilà, petit avantage aux Basques. Donc peut-être une belle surprise.
Dernier demi-joker pour toi, Nadine.
Ouais, demi-joker, je reprends un petit risque puisque j'écarte le favori book, mais pas le favori de la répartition comme la semaine dernière, ça m'avait pas réussi. Mais je pense que la roue finira par tourner, que ce soit pour mes pronos ou pour le Betis de Séville qui a vraiment du mal en ce moment à obtenir des victoires. Ils ont été éliminés en plus hier à Zagreb, donc face au Dynamo en Europa Conference League. Donc la chance ne leur sourit pas. J'espère que ça va changer pour eux. En plus, il y a des arguments dans cette équipe. Il y a Cédric Bakambu qui est de nouveau un attaquant dans ce club. Il y a William José qui est toujours là. Et puis, il y a toujours le meneur de jeu que j'apprécie beaucoup, même s'il est un peu enrobé en ce moment. Mais ça n'enlève rien à son talent, puisque c'est Nabil Fekir. Et j'espère qu'il va distiller de très, très belles passes. Et pour battre cette équipe de Bilbao, toujours plus à l'aise à domicile qu'en déplacement.
Le match numéro 14, vous le savez, c'est le dernier de cette grille, toujours en Liga, je le disais, c'est le Real Madrid, leader du championnat, qui accueille le FC Séville, qui lui est 15e, avec 24 points contre 62 pour le Real. On verra que Nadim fait confiance à la Maison Blanche. Chris, lui, laisse traîner un...
Ouais, je laisse traîner un match nul là pour spéculer un petit peu, pour aller chercher quelque chose d'intéressant. Alors on sait, le Real Madrid est le leader actuel de la Liga. Le Real vient de prendre un petit peu de large avec sa récente victoire face à Gérone. Après son match de Ligue des Champions à Leipzig, le Real quand même a été accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano. Et on va rappeler quand même que le FC Séville s'est dernièrement imposé sur la pelouse du Rayo Vallecano. Donc ça, c'est quand même un point important du côté des Sévillans. Je vais dire aussi que le Real quand même a pas mal d'absents sur ce match. Hein, donc Bellingham est toujours blessé, Rudiger à là-bas, Camavinga et Carvajal aussi ne seront pas là. Rossellou est incertain, donc c'est quand même pas mal de joueurs en moins pour une équipe quand même qui enchaîne les matchs. Donc voilà, je me dis pourquoi pas se couvrir avec un petit match nul. On va dire aussi que le FC Séville quand même est invaincu depuis 4 journées. Donc c'est une équipe quand même qui a lancé son opération maintien avec donc son succès sur le terrain du Rayo. Donc c'est toujours toujours difficile d'aller s'imposer là-bas. C'est une victoire devant l'Atlético Madrid, donc ça aussi c'est une belle performance. Et c'est aussi un nul face à Valence sur le score de 0-0. Il y a le retour aussi de Sergio Ramos à Bernabeu, donc ça aussi c'est un point important. Donc je me dis que le Real est quand même bien sûr le favori de ce match, mais pourquoi pas un petit nul à côté.
Ouais, favori pour Nadim également.
Ouais, favori en les basant. Alors c'est vrai que le FC Séville va mieux et a pris un peu d'air sur la relégation qui les menaçait. Ils ont 6 points d'avance sur cette zone rouge, donc ils vont un peu respirer. C'est vrai, aller un peu moins fermer la boutique, je pense, dans ce déplacement, peut-être produire plus de jeux, ce qui va peut-être faciliter la tâche des Madrilènes. Les Madrilènes qui viennent de battre Gérone 4-0 et prendre une très très grosse option sur le titre. Donc à Bernabeu, ils sont quasiment injouables. En plus, il y a très peu d'absence dans l'équipe. Ils sont quasiment au complet. Il n'y a que Courtois qui n'est pas là depuis un petit moment. Donc je vois quand même le Real faire le boulot à domicile.
Messieurs, merci. C'était le prono du Loto Foot 15, numéro 12. On vous le rappelle, à valider dimanche maxi pour 14h55. Il est doté d'un pactole d'1,5 million d'euros. On débriefera cette grille lors de la prochaine émission qui aura lieu vendredi prochain, à savoir le 1er mars. Rubrique suivante. Il s'agit des pronobooks. Découvrons ensemble la sélection de Chris qui va nous parler d'autre chose que de foot, entre autres.
Voilà, donc pour l'instant déjà, donc ce vendredi là, donc en fin de soirée à 23h35 hein, exactement, il y a un match donc de rugby à 7. Pourquoi j'ai pris du rugby à 7 ? Parce que je voulais noter la présence d'Antoine Dupont, donc le meilleur joueur du monde dans le rugby à 15 et capitaine de l'équipe de France va disputer son premier match en rugby à 7. Donc bien sûr pour préparer les Jeux Olympiques. Donc ça c'est un point important, son premier match face aux États-Unis. Antoine Dupont, on le sait, hein, est capable de réaliser de grandes performances en rugby à 7. Il a toutes les qualités pour. Et je me dis que sur ce match-là, l'équipe de France peut franchir un palier. Donc sur cette première rencontre, je vais miser sur une victoire de la France avec au moins 8 points d'avance. C'est coté à 2. Et je pense que c'est plutôt intéressant devant une équipe américaine qui va surtout préparer son tournoi à domicile qui va se disputer la semaine prochaine, donc dans le week-end du 2 et 3 mars. Ensuite, on va partir sur un match de première ligue, Manchester United-Fulham, donc c'est samedi à 16h. Sixième qui reçoit le 12e, on le sait, Manchester United est en grande forme, se rapproche des places européennes. Je pense que l'opportunité est belle pour les Mancuniens devant Fulham, hein, parce que cette équipe de Fulham est plutôt en difficulté actuellement. Là, je vais miser encore une fois sur Marcus Rashford. Je vais maintenir ma confiance, même si la dernière fois il n'avait pas marqué face à Luton. C'est un garçon qui revient bien, qui n'a pas réussi son début de saison, qui était plutôt en difficulté. Là, depuis le début de l'année, c'est un garçon qui monte en puissance, qui a quand même marqué 3 buts là sur les 6 dernières journées de Première Ligue. Donc voilà, je me dis qu'il est plutôt logique de le reprendre. En plus, la cote elle est à 2,90, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a samedi à 17h un match du top 14 entre Perpignan et La Rochelle. 12e qui reçoit le 9e. On le sait, il y a le doublon avec le tournoi Destination, donc beaucoup d'internationaux qui seront absents, surtout du côté de La Rochelle. Mais il y a aussi pas mal de joueurs absents du côté de Perpignan, donc je pense que ça va compenser un petit peu tout ça. Du côté de Perpignan, les absents, notamment Tulagi, hein, qui va être avec l'équipe de France, et Fahasso et Marvin Horry qui sont blessés, sont deux joueurs importants pour les Catalans. Donc je me dis que La Rochelle peut aller s'imposer à Aimé Giral. La Rochelle est en difficulté actuellement dans le championnat. La Rochelle doit prendre des points à Perpignan. Ronan Ogara a tapé du poing sur la table après la récente défaite, donc après la dernière défaite. Donc je me dis que La Rochelle, avec quand même un effectif très large, peut aller s'imposer à Perpignan avec au moins 6 points d'avance. La cote, elle a 2,40. Et enfin, pour mon fun, je vais me tourner vers le Écosse-Angleterre samedi à 17h45, donc tournoi destination. Pour moi, ce match va partir un petit peu dans tous les sens. Cette équipe écossaise envoie énormément de jeux. C'est une formation qui est agréable à voir jouer. Je me dis que l'Angleterre, qui reste sur 2 victoires dans ce tournoi, doit aussi aller chercher une victoire à Murrayfield. Donc je pense que ça va être une rencontre qui va être assez spectaculaire. Du côté des Écossais, on le sait, il y a un garçon que j'aime bien, c'est Johan van der Merwe, qui est le meilleur marqueur d'essai de l'Écosse. Donc ça, c'est une valeur sûre. Mais surtout, il y a Blaine Kinghorn qui fait son retour à l'arrière. C'est un garçon qui a énormément manqué lors de la défaite face à l'équipe de France. Donc je pense que le combiné Kinghorn et van der Merwe est plutôt sympa, côté à 7,5.
Merci à toi, Chris. On va voir si Nadim, comme à son habitude, nous a concocté des paris qui concernent des scoreurs.
Ouais, retour à mes préférés paris préférés, c'est les buteurs. Donc je vais commencer avec un joueur qui est plutôt en forme, c'est la recrue lorientaise de cette fin de mercato. Donc une recrue fracassante, puisque dès son entrée en jeu face au Havre, Mohamed Bamba a marqué, alors qu'il n'a joué que 20 minutes de jeu. Et ensuite, il a marqué à chaque match, dont un doublé lors du déplacement et de la victoire donc des Merlus à Strasbourg, 3-1. Donc un joueur qui vraiment pète le feu, qui marque but sur but, et il est coté à 2,90 pour la réception des Canaries nantais. Donc je pense que c'est vraiment la saison du Merlu. C'est une équipe qui fonctionne vraiment par période. Il y a des périodes où ils peuvent enchaîner 7-8 défaites de rang et des périodes où tout va pour eux, tout va pour le mieux, et ils enfilent les victoires comme les perles. Donc très étonnante équipe avec une récurrence des performances et des cycles. Donc ils sont dans un bon cycle, et Bamba peut être buteur à 2,90. Je pense que c'est une value, surtout que c'est à domicile. Ensuite, il y a un autre buteur, alors c'est un peu moins value parce que c'est une cote à 2,20, c'est Bukayo Saka du côté des Gunners d'Arsenal, RAF, donc qui reçoivent les Magpies. Donc là, la cote n'est pas exceptionnelle, mais je pense que les Gunners vont marquer beaucoup de buts, puisqu'en face, c'est une défense très très poreuse des Magpies, une défense qui a encaissé 8 buts lors de leurs 4 derniers matchs, 4 buts contre la faible équipe de Luton Town, et puis 2 buts contre Nottingham Forest et Bournemouth. Donc vraiment, rien ne va dans cette défense des Magpies, ça les empêche de franchir un palier, et justement aux Gunners d'en profiter et d'aller peut-être viser le titre cette saison, puisqu'il y a un coup à faire entre Liverpool et Manchester City, qui ne sont pas quand même les meilleures versions qu'on ait connues de ces deux équipes. Et ensuite, on en a parlé durant les pronos Loto Foot. Il y a le Napoli qui se déplace à Cagliari, une équipe en difficulté. Et au Napoli, il y a vraiment un joueur incontournable. C'est Victor Osimhen qui est bien rentré de la CAN et qui a renoué avec le chemin des filets contre le FC Barcelone. Je pense qu'il va commencer à enchaîner maintenant qu'il a récupéré physiquement de cette épreuve de Coupe d'Afrique avec les températures qui dépassaient les 30 degrés. Donc physiquement, il va aller mieux et marquer de plus en plus de buts et devenir le serial buteur que l'on connaissait avant cette coupure de Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, pour le fun, j'étais obligé de me diriger vers le match entre Metz et Lyon ce soir et je vais retenter alors cette fois Lacazette, mais en combiné avec Miko Tadze pour faire gonfler la cote. Donc, Lacazette n'a pas marqué contre Nice. Je pense qu'il devrait rectifier le tir ce soir. Et puis, Metz n'a plus rien à perdre. Justement, ils sont relégués actuellement. Donc, ils vont quand même tenter de jouer l'offensive. Ils doivent s'imposer et marquer des buts. Je vois déjà les deux équipes qui marquent et normalement une victoire lyonnaise au bout. Mais s'il y a un buteur dans cette équipe messine, ça doit être le Géorgien Miko Tadze. Il y a deux saisons, il marquait but sur but avec un total de plus de 20 réalisations en fin de saison. Là, il n'a toujours pas marqué depuis son retour, mais se procure beaucoup d'occasions. Donc, j'espère pour lui qu'il va marquer au moins un but et faire passer mon pari. Cote à 9,75.
Messieurs, merci beaucoup pour vos analyses, vos expertises et tout le travail que ça demande en amont. C'est déjà la dernière partie de l'émission. Il s'agit des questions-réponses. Merci à Seb pour la compile. On prend la première question, c'est Pascal qui la pose. Salut les gars, je fais mes pronostics par rapport à vos pronos, sans réussite, toujours tout près des gains. Pensez-vous que le pactole soit remporté dimanche?
Ça c'est la question pour Raph, normalement, ouais, s'il y a un gagnant ou pas.
Ouais, c'est vrai. Moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que moi, dimanche, je ne ferai pas 14 sur 14. Voilà ce que je peux faire. C'est une certitude.
C'est bien. Non, mais elle n'est pas évidente, la grille, je pense. Même si on a beaucoup de pronos en commun, on a quand même pris quelques paris risqués. La synthèse de nos pronos donne quand même beaucoup de multiples aussi. C'est une grille peut-être plus dure qu'elle n'y paraît. On est en sortie d'hiver. Les organismes sont toujours fatigués. Il y a toujours l'enchaînement des matchs. Je vois que Christ a couvert le FC Séville, mais tous les matchs demandent une analyse poussée. Puis il y a le match argentin. Il y a les deux matchs de Bundesliga. Donc, c'est compliqué.
Ouais, c'est ça. Moi, je vais jouer en N-3 en demandant personne à 11 sur 14. Comme ça, je vais jouer le triple pas de gagnant. Évidemment, c'est une boutade. Allez, on enchaîne avec une question d'Hervé. Bonjour, j'ai suivi Chris en misant 5€ sur Griffo au buteur à Fribourg, rentré à la 86e minute. Je n'ai pas trop l'habitude des paris buteurs, mais je suis étonné de ne pas être remboursé.
Ouais, on lui a plus ou moins répondu suite au prono de Chris. Donc, on peut répéter, malheureusement, le règlement des buteurs fait qu'aujourd'hui, si un joueur joue au moins quelques secondes et rentre sur la pelouse, le pari est comptabilisé. Alors, Chris, Raph, plutôt, tu vas nous rappeler qu'il y a une vidéo sur cette chaîne qui parle.
Absolument. On a une émission spéciale buteur extrêmement complète. Vous pouvez la retrouver dans la playlist, dans les vidéos de la chaîne YouTube Pronosoft. Vous avez vraiment tous les détails et sans encore remercier une nouvelle fois Nadim qui explique tout en long, en large et en travers. On enchaîne avec une question de Koukoum 80. Pour moi, le fait que Rennes a joué une grosse team, entre parenthèses le Milan AC, est un avantage avant d'aller au parc. Votre avis?
Peut-être que Rennes va être habitué avec l'impact qu'a mis peut-être les Milanais, mais je trouve que c'est pas forcément un impact, sachant que quand même tu as joué jeudi, tu as usé beaucoup d'énergie avant ce match-là, et en plus tu te fais éliminer, donc je pense pas que ce soit vraiment un avantage quand même d'aller au parc.
Question de François, en fait, il demande si le pari premier buteur remplaçant existe.
Non, il n'existe pas. Enfin, moi, je le connais pas. Premier buteur remplaçant. Ah oui, d'accord. C'est carrément que ce soit un remplaçant qui marque le premier but. Non, ça n'existe pas. Je pensais que c'était que le premier joueur remplacé marque, mais non, je connais pas ce pari. Après, en live, tout est possible puisque dans les paris live chez tous les bookmakers en ligne, il y a le prochain buteur. Donc, s'il y a 0-0 et qu'il y a un remplaçant qui rentre, bah, tu peux le prendre en prochain buteur, ça reviendra presque au même.
Question de Raphaël. Pensez-vous que Mbappé va encore avoir la tête au championnat? Bon, allez, je me permets de répondre un petit peu, je vous laisse la parole après. C'est un compétiteur hors norme, donc, qui est en course pour des titres collectifs et individuels. Donc, je pense vraiment, oui, qu'il a encore la tête au championnat. Et la course au ballon d'or et tout ce qui s'ensuit, c'est quelqu'un qui a du mal à être rassasié de titres, qu'ils soient collectifs ou personnels. Donc pour moi, oui. Et toi, Chris?
Ouais, mais je pense que tu as tout dit, hein. C'est des garçons, lui, Ronaldo, Messi, qui partent à la recherche de statistiques, de records, de titres. Là, il est à 21 buts en Ligue 1. S'il peut aller chercher son record qui est de 33, je crois, dans le championnat de France de Ligue 1, je pense qu'il va aller le faire, hein. Donc, c'est un garçon, en plus, on le sait, qui doit aller chercher un ballon d'or, peut-être l'an prochain, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Donc, il a besoin de marquer. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. Il aura la tête au championnat. C'est une certitude.
Puis c'est quelqu'un qui est à fond derrière son image et qui ne voudra pas l'écorner de n'importe quelle façon que ce soit. Il va faire le boulot. Il était déjà remplaçant contre Nantes pour être préservé, alors qu'il avait annoncé justement qu'il partirait. Ça se savait. Il est rentré. Il a marqué un but en rentrant. Il va être toujours à 200% dans son domaine de prédilection, qui est le terrain. Et heureusement, puisque c'est ce qu'on lui demande.
Puis au contraire, je pense qu'il aura envie de terminer sa saison avec le PSG de la meilleure des manières.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il veut marquer l'histoire par tous les moyens qui existent, dont les records de buts avec le PSG et les records de points.
C'est vrai que la Ligue des Champions pour Paris Saint-Germain, ce serait une belle histoire quand même. Mais bon, le chemin est encore long. Question de Koukoum 80. Comment avez-vous abordé cette grille pour la préparer avec les matchs européens? Bon, je pense que ça a été assez développé. Nadim a manqué quelque chose.
Oui, bah, comment on a abordé? Bah, déjà, c'est vrai que des fois, je peux jeter un œil sur la grille le jeudi matin pour commencer à regarder mes bases et tout. Mais j'ai dû attendre hier 23 heures pour voir qui s'était qualifié, qui avait mis l'équipe type, qui avait laissé beaucoup d'énergie. C'était pas pareil si Rennes, j'ai basé le PSG, mais si Rennes avait pris une volée, et surtout Toulouse, si Toulouse avait pris une volée contre le Benfica, je les aurais peut-être pas cochés dans ce match, alors qu'ils m'ont fait bonne impression. Donc moi, comme il y a beaucoup d'équipes européennes, j'ai essayé de regarder toutes les équipes européennes, le Betis également. Voilà, il faut attendre le dernier moment pour les pronos, donc on peut pas faire l'émission avant le vendredi midi. Je sais pas toi, Chris.
Non, mais comme tu l'as dit, c'est encore plus plus important de regarder un peu à la dernière minute tout ce qui s'est passé sur les matchs de la semaine. Quand il y a des matchs européens le mardi, mercredi ou jeudi, il faut vraiment avoir l'analyse là-dessus, parce que voilà, les matchs peuvent être différents en fonction de tout ce qui s'est passé dans la semaine, les blessés, les titularisations de pas mal de joueurs, les joueurs au repos, etc. Quand on se fait éliminer aussi, c'est toujours difficile de repartir de l'avant que quand on se qualifie. Donc il y a plein de choses à voir quand il y a des matchs en semaine, donc c'est pas évident.
Et si je peux me permettre, je trouve que le football, il va au rythme de ce qui se passe dans la société, des réseaux sociaux, tout va très très vite. Là, le nombre de valses d'entraîneurs, de changements, le nombre de joueurs qui changent, celui qui prend les équipes en septembre, il ne doit pas reconnaître le championnat ou ses équipes en février. On change 3 fois d'entraîneur dans beaucoup de clubs aujourd'hui. J'avais jamais vu autant de clubs changer pour une 3e fois d'entraîneur. Donc que ce soit à Lyon, à Marseille, au Napoli, c'est assez incroyable ce qui se passe. On est dans la politique de l'immédiat, donc vraiment, il faut au jour le jour regarder les infos.
Le football, il a changé, Nadim.
Merci.
Question de Raphaël. Ça fait 6 mois que le championnat a débuté. Avez-vous 2 ou 3 noms de joueurs qui, pour vous, se démarquent par leur performance?
C'est difficile de sortir 2-3 noms.
Ouais, enfin, c'est difficile, ouais. Mais en même temps, enfin, il va y avoir les stats qui vont parler d'elles-mêmes. Ouais,
parce Mbappé, que... quoi, déjà. Hein,
oui, voilà, Mbappé, Haaland, même si j'ai vu qu'il y a une question qui suivait sur Haaland, il y a des joueurs hors normes qui restent là. Mais moi, c'est Bellingham, hein, depuis le début de la saison. Là, il a eu 3 semaines où il était blessé, mais Bellingham, vraiment, il me surprend par son intégration instantanée et, au Real Madrid. Il est devenu la star en à peine 1 mois de cette équipe, alors qu'il y a du beau monde. On pensait que ce serait Vinicius qui prendrait le relais, mais Bellingham s'est rapidement imposé.
Ouais, moi, s'il y a un joueur, ce serait Openda à Leipzig, hein, qui a fait une grosse saison à Lens l'an passé. Je me suis dit, en partant à Leipzig, ce sera peut-être plus difficile. Et au final, il est en train quand même de confirmer tout son talent. Et je serais pas étonné de le voir dans une grosse team d'ici peut-être 1 ou 2 ans. Et peut-être, je ne dis pas à Manchester City, mais dans des clubs aussi importants, à mon avis, je pense que ça va arriver vite. Ouais.
Toujours une question de ce même Raphaël. Docteur Nous et Docteur Chris, pensez-vous nous dire ce qui arrive à Kane, voire aussi à Haaland, qui ne marque plus, voire moins?
Ouais, j'ai suivi le match là de Man City contre Brentford et les commentateurs ont rigolé en disant que voilà, si Haaland ne marque pas 2 matchs consécutivement, rien ne va plus, il a perdu son football. Et il a mis un but exceptionnel, je trouve, contre Brentford, parce que la chevauchée est magnifique avec ses grands compas. Et puis Kane, bah, il reste un très bon buteur. Alors j'en discutais avec le fiston qui suit ça de près. C'est vrai qu'il n'est pas à la hauteur de Lewandowski au même moment au Bayern Munich. Et
peut-être que ça va être aussi un gros chat noir, Harry Kane, parce qu'il n'avait gagné aucun titre avec Tottenham. Il va au Bayern de Munich qui remporte 12 titres consécutivement de Bundesliga et il va peut-être arriver l'année où ils ne vont pas le remporter. Donc, peut-être également un chat noir.
Question de David. Bonjour, heureux de vous revoir, mais nous aussi. Merci à toi d'être sur le chat. David, pouvez-vous nous dire l'équipe susceptible de gagner ou match nul quand vous mettez trois grilles, enfin trois triples, enfin un triple, j'imagine, ou un double? Encore merci. Alors, c'est vrai que l'argumentation est plus ou moins faite quand on est sur la ligne du match. Hein.
Oui, oui, tout à fait. On l'a précisé sur la finale de Cup, c'était le nul pour ma part. Quand j'ai spéculé sur l'OM ou je sais plus quel autre double, j'ai précisé le favori à domicile sur Nice, pardon, que Nice restait ma première croix. Donc dans le logiciel, si tu l'utilises, une préf, c'est sur plusieurs matchs. Il faut prendre au moins deux matchs et mettre les favoris et faire les minimums maximum. Donc c'est pour les préfs notamment qu'on précise cela parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs du logiciel qui nous écoutent. Je reconnais beaucoup de pseudos. Je salue Bassa aussi au passage dans le chat parmi d'autres.
Question de Prosper Youplaboum. Prosper 29290. Bonjour la team. Savez-vous pourquoi on ne peut plus mettre de pouce levé sur YouTube? Alors là.
Alors ça m'étonne vraiment. Soit tu n'es pas connecté, soit il y a eu un souci. Parce que pas plus tard que ce matin, j'ai mis un pouce levé pour notre émission fétiche. Donc je pense qu'il y a un problème de compte, que tu n'étais pas connecté à ce moment-là. Mais pour ma part, pas de problème. D'ailleurs, on peut vérifier les pouces levés en ce moment, Seb va nous le dire sur l'émission, mais il doit y en avoir une petite cinquantaine facile.
Question de Raphaël, encore une fois. Que se passe-t-il pour Raph? Il ne bouge plus, il est parti boire un café. Alors, je rappelle que je suis une IA, un animateur IA programmé et développé par Nadim. Donc, voilà, je préfère être en image fixe pour une question de droit d'image. Non, tout simplement, c'est de la technique. Parfois, je suis en image fixe comme ça. Mais l'important, vous le savez, c'est de voir bouger et articuler Chris et Nadim qui font vraiment le cœur de l'émission. Question de Tennis 92. Salut l'équipe. Merci pour le live. Alors, bon, ça, c'est une question qui revient souvent aussi. J'ai l'impression que ça fait un bon bout de temps que la FDJ ne fait plus de pactole à 3 millions sur les Lotto Foot 15, alors qu'il y a quelques années, c'était régulier. A priori, il y aura encore deux pactoles jusqu'à la fin de la saison, nous demande-t-il, en avril et pour l'Euro.
Ouais, j'étais en train de lire la réponse de Seb. Apparemment, il y a un problème sur les likes sur YouTube. Donc, je ne sais pas si j'ai rêvé ce matin, mais voilà. Oui, donc, pardon.
Oui, les pactoles 3 millions, ça n'existe plus depuis un moment.
En fait. Non, ils sont passés à 2 millions. C'est plafonné à 2 millions. Moi, je suis plutôt favorable à ce type de choses parce que même... t'en parlais, Raph, que ce soit 500 000, 1 million ou 1 million 5, voire 2 millions, on fait la différence difficilement, ça reste de très grosses sommes. D'abord, il faut faire le sans faute et après prendre ce qu'il y a. Surtout qu'on n'est pas sûr d'être seul au premier rang. Donc, voilà, 2 millions, je trouve que c'est déjà une somme exceptionnelle. Ça reste un gros challenge parce qu'il y a 15 matchs. Donc, aujourd'hui, c'est plafonné à 2 millions. Il y en a beaucoup plus qu'avant. À une période, les pactoles se faisaient très rares. Il n'y avait pas le pactole à 500 000 euros systématique sur la Ligue 1. Ils ont instauré ça il y a 4 ou 5 ans et c'est une très bonne chose. Donc, nous, on est plus pour... des pactoles plus nombreux, quitte à ce que les sommes soient un tout petit peu moins importantes, mais c'est quand même des sommes qui changent votre vie si vous prenez 2 millions d'euros.
Absolument. Question de Jadli. Bonjour messieurs, j'aimerais savoir qui propose ces grilles Lotto-Foot. Merci. Mais tout simplement l'organisateur du jeu, c'est-à-dire la Française des Jeux via sa marque Parion Sport. On enchaîne avec la question de Landbreaker. J'ai remarqué que le match 10 était souvent un match allemand. Pensez-vous que cela est une signification, Nadim?
Oui, effectivement, mais c'est logique parce que la FDJ met toujours les mêmes types d'ingrédients. Il y a les 5 matchs de Ligue 1, après il y a souvent dans les top matchs de Première Ligue, il y a un certain ordre pour les compétitions, donc il arrive souvent en match 10, c'est un peu normal, ils ont leurs règles. En bas, c'est souvent un match espagnol qui est le match 14. Juste une petite particularité qui est arrivée deux fois cette saison, c'est que le match 1 est d'habitude le match du dimanche soir, et là le match est à 17h05 le dimanche. L'affiche du dimanche soir est en Marseille contre Montpellier, donc la FDJ a dû juger que le PSG Rennes était plus attractif que le Marseille et Montpellier, et on peut le comprendre puisque les deux équipes sont dans le ventre mou.
Dernière question de Boulby. Salut à tous. Nous, pourquoi certains buteurs sont en gris non sélectionnables en simple alors qu'ils les proposent en duo buteur?
Ouais, alors ça, nous, en fait, ce qui se passe techniquement, on aspire l'offre de la FDJ Paris en sport, donc on prend leur statut désactivé ou activé sur les paris buteurs. Il faudrait que tu nous envoies les buteurs que tu as vus qui sont dans ce cas-là. On va regarder pourquoi. Ça peut arriver, alors, soit c'est désactivé parce qu'il y a trop de mises sur les paris simples et pas sur les combinés, soit parce qu'ils ont juste désactivé parce que le joueur ne jouerait peut-être pas le jour du match, et sur les combinés, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Parce que sur ces types de paris, je sais qu'il y a beaucoup de choses manuelles. C'est dur d'automatiser les choses, donc ils ont dû mettre la priorité sur l'info dans le pari buteur. Mais envoie-nous le buteur concerné et on regardera.
Bon, il y a Prosper qui nous apporte une précision par rapport au like. Il nous dit qu'il vient d'essayer et au contraire, il nous dit qu'il ne faut pas être connecté pour mettre un pouce, et il y en a 70 actuellement. Voilà.
D'accord. Donc alors, on peut quand même le faire, mais moi je t'ai connecté ce matin à voir si on va se renseigner sur ce problème technique. J'espère que c'est temporaire parce qu'ici on n'a plus les likes, il n'y a plus grand chose.
Allez, question de Laurent, on y a plus ou moins répondu tout à l'heure. Bonjour l'équipe, super émission, merci à toi. Pensez-vous que le pactole va tomber ce week-end? Moi je réponds non.
Alors,
Nadim,
maintenant, pour qu'un pactole tombe pas, il faut vraiment qu'il y ait des très très grosses surprises, parce que surtout qu'il y a 1,5 million, donc tous les groupes vont encore jouer davantage, tous les joueurs augmentent leur mise, ce qui est logique, puisque voilà, au lieu de prendre 500 000 euros à résultat égal, enfin à 14 sur 14, on va prendre trois fois plus. Donc l'espérance de gain est trois fois supérieure à l'habitude. Les gens jouent plus, donc si on joue plus, il y a plus de combinaisons. Après, il y a quand même quelques bases communes. Si les deux, trois top bases passent, il y aura des gagnants. Enfin, il y aura quelques gagnants.
Question de R99. J'avais dit tout à l'heure que c'était la dernière question, mais d'autres sont arrivées entre-temps. Merci à Seb. Salut, question sensible. Je vois des dingueries concernant les décisions arbitrales en Serie A et Liga, hors jeu imaginaire, pénalty douteux et vice-versa. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des trucages dans ces ligues?
Alors, trucage, le mot, il est un peu fort, mais même hier sur la soirée d'Europa League, enfin, Fribourg, je ne sais pas pourquoi le péno n'est pas sifflé en leur faveur. Alors, je pense qu'il y a une justice, mais s'il n'y a pas péno sur l'action de Fribourg, je ne comprends pas. Il y en a eu pas mal d'autres comme ça. Pour Nice, à Lyon également, il y a eu quelques scandales. J'ai lu quelque chose sur Monsieur Turpin qu'on pouvait difficilement contredire dans notre Ligue 1. Je pense que ça doit être le cas parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Après, que ce soit pour des trucages par rapport aux paris sportifs, ça, j'y crois moyennement. Vu les sommes en jeu dans les clubs et ce qu'il y a à gagner, les paris sportifs restent une source d'argent marginale. Donc, je vois pas de lien pour les top divisions avec les paris sportifs. Je ne dis pas que c'est vrai pour les divisions inférieures, mais pour les top championnats, la Ligue des Champions, des fois je lis que c'est truqué par rapport aux paris sportifs, j'en doute fort.
Et puis on est au milieu de la saison, donc je ne vois pas comment on pourrait truquer un match, sachant que tout est encore possible, que ce soit pour le maintien, pour une place européenne, pour le titre, enfin, pour toutes ces choses-là. Donc, puis ça, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Hein. Enfin, au moins au niveau.
Pas sur les top compétitions.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Ben les gars, c'est la fin de l'émission. Merci à vous pour votre temps, votre travail, votre expertise, vos analyses. Salut Chris, salut Nadim. On se retrouve vendredi prochain, on sera le 1er mars, pardon, toujours en direct à 13h. On vous souhaite un excellent week-end, d'excellents pronos et pourquoi pas de remporter ce super pactole d'1,5 million d'euros. Salut les gars, bon week-end.
Bon week-end.